RCF.
La crise consiste justement dans le fait que l'ancien se meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. C'est ce qu'écrivait Gramsci dans ses cahiers de prison entre 1929 et 1935. Pensée d'une actualité brûlante, je crois, car elle repose cette question. Revivons-nous ces phénomènes morbides variés dans lesquels lui-même il avait été pris et dont la résurgence d'une forme nouvelle de fascisme serait une nouvelle manifestation. Pour traiter cette question, j'ai invité aujourd'hui Ludivine Bantini, qui est historienne, Ugo Paietà, qui est lui-même sociologue, ils sont tous les deux professeurs d'université, maîtres de conférences, et ils viennent de publier aux éditions textuelles un petit essai, petit par le nombre de pages, mais pas du tout par le contenu, petit essai qui s'intitule « Face à la menace fasciste ». Bonjour Ludivine Bantini.
Bonjour Monserrata, merci beaucoup de votre invitation.
Et bonjour Ugo Paietà.
Bonjour.
Alors, Vous publiez cet essai dont le titre inquiète. Face à la menace fasciste, c'est une préoccupation qui est la vôtre, Ludivine Bantini, en tant qu'historienne, qui avait étudié la Commune, qui avait également travaillé sur la génération 68, qui vous est intéressée également à la guerre d'Algérie. C'est une préoccupation pour vous également, Ugo Paietà, qui est sociologue et qui observait les mutations, les transformations de la société française. Cette idée d'un retour du fascisme n'est pas nouvelle. Depuis les années 70 déjà, des historiens interrogent cette définition du fascisme, des frontières qu'il aurait dans le temps et dans l'espace. Ludivine Bantini, comment définir aujourd'hui le fascisme alors que des historiens diraient qu'il renvoie à une période bien précise de l'histoire qui est celle de l'Italie mussolinienne?
Oui, alors ce qu'on explique dès l'abord du livre, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que nous sommes dans un régime fasciste, hein, mais qu'il y a des tendances à la fascisation et que ces traits-là, tout régime fasciste a toujours été précédé par une phase de fascisation. Alors le fascisme, c'est un projet politique, un programme qui peut ensuite s'installer et s'enraciner dans un régime qui est un programme de régénération, de supposée régénération, de supposée purification, qui impose aussi des formes de destruction, de liquidation, autour d'un projet national, racial, d'une sorte d'homogénéité fantasmée, où évidemment l'enfermement, voire le crime de masse, sont autant de possibilités, hein, puisque un régime fasciste autour d'un leader charismatique, destructeur de toute forme de démocratie, entend éliminer systématiquement ses opposants. Alors il ne s'agit pas de faire un parallélisme strict avec la période des années 1920, en Italie, et plus tard, évidemment, la décennie 1930 avec la montée et l'arrivée au pouvoir des nazis. Mais ce qu'on explique aussi d'emblée dans le livre, en suivant cela, notamment Orwell, entre autres, c'est que le fascisme n'a pas besoin de chemise brune, qui peut prendre des formes diverses, et que cette crise d'hégémonie que vous avez rappelée en citant Gramsci, c'est-à-dire la difficulté pour un pouvoir à continuer de s'exercer simplement par le consentement et avoir de plus en plus recours à des méthodes autoritaires et des méthodes aussi de répression, peut conduire justement à ce risque. Et c'est vrai que la situation nous paraît tout particulièrement alarmante avec un certain nombre de caractéristiques qui l'imprègnent et qui nous semblent ressembler justement à des traits de fascisation.
Et vous, Ugo Paietà, vous avez déjà publié en 2018 un autre texte qui s'intitulait « La possibilité du fascisme. Entre menaces et possibilités, j'ai l'impression que l'inquiétude a augmenté d'un cran. En 3 ans, les choses se sont-elles aggravées? Et y a-t-il aujourd'hui, face à cette inquiétude, un écho médiatique qui prend en compte cette menace ou cette possibilité du fascisme?
Alors, sur la dernière question, je dirais que il n'y a, à mon sens, pas vraiment d'écho, tout simplement parce que, concernant cette menace fasciste, en tout cas en France, alors que, par exemple, aux États-Unis, il y a un débat qui sont très soutenus, où interviennent notamment des historiens ou des historiennes du fascisme, etc. Bon. En France, en fait, il me semble qu'en grande partie, le débat n'a pas vraiment lieu. D'abord, les historiens d'ailleurs du fascisme n'interviennent pas dans cette discussion, considérant en général, pour ce qui est en tout cas de la bonne partie des historiens, que le fascisme n'a jamais vraiment pris en France et que par ailleurs c'est une réalité effectivement qui appartient au passé, hein, ce qui n'est pas l'avis d'ailleurs d'autres historiens éminents du fascisme comme Zev Sternel par exemple ou Robert Paxton. Effectivement, depuis l'apparition de la possibilité du fascisme, il me semble que la menace a grandi. Bon, il y a plusieurs symptômes morbides, effectivement, comme dirait Gramsci, de ça. Il y a la montée de l'autoritarisme avec la répression ahurissante qu'a subi notamment le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui est quelque chose d'inédit depuis des décennies, avec plusieurs dizaines de personnes mutilées par des tirs notamment de flashball. Avec plus de 2000 condamnations, 2500 presque de condamnations à des peines de prison ferme ou avec sursis, qui, je le répète, hein, est du jamais vu. Et puis les deux autres symptômes morbides que je pourrais évoquer, c'est le fait que l'extrême droite n'a pas cessé de progresser depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Hein. Marine Le Pen, si elle est au deuxième tour, est annoncée beaucoup plus haut au deuxième tour qu'en 2017, où elle fait 34%. On voit la montée par ailleurs sondagière pour l'instant de Éric Zemmour, hein, mais on verra ce qu'il en sera. Et puis le troisième symptôme morbide que j'évoquerai, c'est la banalisation de la parole raciste dans l'espace public, notamment sous la forme de la haine et de l'hostilité radicale vis-à-vis de l'islam et des musulmans.
Oui. Donc, il n'y aurait pas de facsimilé entre le fascisme mussolinien et la réalité hexagonale. C'est ce que vous précisez notamment dans le chapitre d'introduction, le fascisme n'a pas besoin de chemise brune. Mais vous voyez des signaux faibles, des symptômes morbides qui permettraient de sonner le signal d'alarme.
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de pouvoir fasciste, mais l'hypothèse, si vous voulez, du livre, c'est que nous vivons déjà dans une société dans laquelle le pouvoir se fait de plus en plus autoritaire. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans d'autres sociétés. Oui. On parle beaucoup ces dernières années de régimes illibéraux, etc. Bon, en fait, il faut parler de démocrature, etc. Oui. Oui. Quand je parle de banalisation, des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé entendre il y a encore quelques années, qui ne serait d'ailleurs pas dite, qu'on se permet de dire à propos de l'islam et des musulmans, et qu'on ne se permettrait pas de dire, d'ailleurs, et c'est très bien, à propos d'autres minorités. En particulier, on ne dit plus, et heureusement, bien heureusement, par exemple, que le judaïsme serait incompatible avec la République, mais c'est un discours antisémite qui pouvait être tenu sans problème dans l'entre-deux-guerres, par exemple, quand l'antisémitisme était florissant et central dans le champ politique français, comme d'ailleurs dans bien d'autres sociétés européennes. Eh bien, aujourd'hui, on voit se banaliser cette idée que, en quelque sorte, les musulmans seraient en eux-mêmes hein, une menace et leur présence serait sur le sol français serait en elle-même une menace pour la nation, pour sa pérennité, etc. Et même des formes de déshumanisation hein, des musulmans qui préparent toujours le pire d'une certaine manière. Parce que quand on déshumanise, on se permet en général dans la seconde phase ensuite eh bien, des choses qui nous ramènent au pire de l'histoire du XXe siècle, des violences terribles.
Oui, déshumanisation, je crois qu'il est inutile de rappeler des termes du lexique qui, justement, animalisent même parfois le musulman ou, entre guillemets, l'arabe. Et vous disiez tout à l'heure que la parole, aujourd'hui, s'est décomplexée. On dit des choses qu'il y a même 7 ou 8 ans, 10 ans, on n'aurait pas osé formuler, ou si elles étaient formulées, on les condamnait immédiatement. Or, les médias, ou plutôt les médias mainstream, offrent une antenne très ouverte à ceux qui répandent ces propos décomplexés, pour utiliser un euphémisme. L'un ou l'autre, Ludivine Bantini ou Hugo Paillettat.
Oui, mais c'est vrai que là, avec le cas d'Éric Zemmour, mais qui n'est pas le seul, hein, hélas, oui. C'est une construction médiatique. On fabrique véritablement un monstre, en fait, un monstre médiatique, au sens vraiment d'une une fabrication d'une personnalité qui joue justement sur ce racisme structurel, qui est très clairement fascisant, parce que quand il parle de remigration avec d'autres, il s'agit vraiment très clairement de déportation, il s'agit très clairement de nettoyage ethnique, et que des forêts de micros se tendent pour recueillir sa parole, qu'il soit toujours, malgré ses condamnations pour incitation à la haine raciale et religieuse, le favori des plateaux de télévision, que des groupes médiatiques comme celui de Bolloré se construisent autour de ce type de figure, banalisent complètement d'autres figures de l'extrême droite comme Marion Maréchal-Le Pen, avec des présentateurs qui lui font littéralement les yeux doux, avec cette tendance dès lors à considérer qu'au fond, dans tout ce jeu politique d'extrême droitisation, Marine Le Pen apparaîtrait relativement modérée, ce qui est très grave. Quand un ministre de l'Intérieur comme Gérald Darmanin dialogue avec Marine Le Pen en lui disant qu'elle serait trop molle sur ces questions de l'islam, des migrations, on assiste vraiment à un phénomène extrêmement grave. Mais il ne s'agit pas seulement de propos comme on peut les trouver.
Il y a des actes aussi, oui.
Il y a des actes, mais je voudrais rappeler à ce sujet que du côté de l'appareil répressif de l'État, du côté des forces de l'ordre, il y a des policiers qui désormais, on le sait, c'est documenté par certains médias, tiennent des qui sont explicitement racistes avec voilà une violence. Alors, j'emploie les mots qui ont été relayés notamment dans un commissariat de Rouen où en fait des policiers parlent de guerre raciale, parlent de négresse, de youpin, de bico, de bougnoul, disent qu'ils sont en train de stocker des armes pour mener cette guerre raciale. Voilà, ce sont des policiers d'un commissariat français. Mais à côté de ça, en effet, il y a des actes. On parle de violence policière. On a beaucoup parlé de la répression policière au cours du mouvement populaire des Gilets jaunes. Hugo les a rappelés tout à l'heure en termes de chiffres. Mais il faut aussi souligner que en une quarantaine d'années, il y a près de 750 personnes qui ont été tuées au cours d'interventions de police. Et pour la plupart, ce sont des personnes qui sont des habitants de quartiers populaires, notamment issus de l'immigration. Et il faut aussi évidemment se rappeler, vous parliez tout à l'heure de déshumanisation, le traitement à proprement parler inhumain qui est réservé aux migrants, qu'il s'agisse de migrants qui traversent la Méditerranée et qu'on s'efforce par tous les moyens de repousser hors des frontières de l'Europe et qu'on laisse mourir littéralement. Ou de réfugiés comme à Calais que l'on prive d'eau, dont on empoisonne la nourriture avec des gaz lacrymogènes pour les priver de toute ressource. C'est un traitement inhumain, mais les seuils de tolérance à l'égard de cette violence se sont considérablement abaissés, ce qui fait que il y a aussi voilà une banalisation et une relative indifférence au sort de populations qui sont presque considérées comme des sous-humains. Et ça, évidemment, ça nous rappelle des tragédies monstrueuses, justement, de l'histoire.
Le seuil de tolérance, dites-vous, Ludivine Bantini, s'est abaissé. Mais alors, à qui imputer la faute? À ces médias? Est-ce que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous acceptons l'inacceptable? Qu'est-ce qui fait que nous avons renoncé à résister, à réagir face à cette pensée déshumanisante?
Les principaux responsables, je dirais, sont... Bon, évidemment, il y a cet acteur spécifique que constitue l'extrême droite, dont sous la forme d'idéologue ou d'organisation. Mais je dirais qu'une responsabilité centrale revient aux gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs décennies pour au moins deux ou trois raisons. C'est que les politiques menées, généralement qu'on qualifie de néolibérales, en ce sens qu'elles s'attaquent, qu'elles visent à marchandiser, donc elles s'attaquent aux services publics, à la protection sociale, etc., ont créé une crise sociale assez terrible, dans la société française et ailleurs. Ce qui a créé du désarroi, etc., et qui a créé un sentiment d'impossibilité de changer les choses ou à minima de sauver en quelque sorte ce qu'on a, c'est-à-dire le modèle social hérité en gros de l'après-guerre, des conquêtes sociales, etc. Bon. Et donc la tentation est très forte pour beaucoup de gens dans cette situation de désespoir en quelque sorte par rapport aux politiques, hein, et sur le politique ne peut plus rien faire, etc. Bon, la tentation est forte d'espérer que on puisse se sauver ou sauver le modèle social en quelque sorte en se débarrassant de ceux qui profiteraient, et là la démagogie d'extrême droite joue, mais ceux qui profiteraient indûment des bénéfices du système de protection sociale, donc les immigrés, les étrangers, les migrants, les réfugiés, etc. Bon, donc la responsabilité en revient d'abord à ces gouvernements qui se sont succédés au pouvoir et qui ont créé ces crises sociales, et puis qui ont joué, qui ont été sur le terrain de l'extrême droite de manière extrêmement récurrente. Donc on l'a vu hein, sous ce gouvernement, notamment avec des ministres qui n'ont pas cessé que de reprendre le langage même de l'extrême droite. Hein. On se souvient de Gérard Collomb parlant de submersion migratoire. On se souvient effectivement du débat dans lequel Darmanin a prétendu être plus ferme en quelque sorte selon son langage vis-à-vis de l'islam et des musulmans que Marine Le Pen. On se souvient de Frédéric Vidal et de Jean-Michel Blanquer ne cessant de parler de l'islamo-gauchisme qui est typiquement une expression qui vient de l'extrême droite. Donc ils jouent sur le terrain de l'extrême droite. Ils mènent des politiques qui empruntent à l'extrême droite vis-à-vis des migrants notamment, mais aussi sur le plan sécuritaire. Et donc ça donne, en quelque sorte, ça donne une forme d'hégémonie aux idées d'extrême droite, ça leur donne une force, parce qu'elles sont reprises dans une grande partie du champ politique, et y compris du côté du Parti Socialiste quand il était au pouvoir, on a vu des propositions qui appartenaient strictement à l'extrême droite auparavant, comme la déchéance de nationalité, être reprises et donc être légitimées par bon Manuel Valls, François Hollande, etc. à l'époque. Donc c'est toute cette situation, l'extrême droite n'aurait pas la puissance qu'elle a en France si elle n'avait pas bénéficié en quelque sorte de cette courte échelle que lui ont fait les gouvernements successifs. Et puis il y a cet acteur spécifique que sont les médias, avec aujourd'hui par exemple l'Empire Bolloré, qui joue clairement la carte de l'extrême droite sous sa forme la plus violente, la plus brutale, et notamment à travers Éric Zemmour. Bon, c'est assez inimaginable dans beaucoup de sociétés européennes qu'un idéologue condamné deux fois pour incitation à la haine raciale non seulement puisse s'exprimer tous les jours à une heure de grande écoute sur une grande chaîne d'information en continu et puisse bénéficier d'une telle
amplification médiatique, oui.
D'invitation médiatique à s'exprimer. C'est littéralement ahurissant.
Alors, voici quelqu'un, nous allons écouter Colette Magny, qui n'a pas eu une audience médiatique considérable, mais qui disait aussi sa protestation dans une époque un peu ancienne.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, où est la maman? J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente. J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périne, elle est grande presque comme maman, pourquoi tu pars avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis-le au coton, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main.
Dialogue, Montserrat Vidal.
Nous reprenons. Cette grande chanteuse de blues française n'a pas eu beaucoup d'écho dans les années où elle chantait, notamment les événements de 68. Ludivine Bandini, dans les premières lignes de cet essai, je relève cette phrase. Tout fascisme est précédé d'une phase plus ou moins longue de fascisation, sans que, bien sûr, elle dise son nom. L'un et l'autre, vous avez tracé quelques caractéristiques de cette période plus ou moins longue, de cette phase plus ou moins longue de fascisation. Est-ce que cette période de fascisation est caractéristique de la France en Europe, ou est-ce qu'on voit une ligne plus profonde qui montre une orientation, une dérive fasciste dans le monde entier ?
Ah oui, c'est sûr que la situation française doit être remise dans une perspective internationale, donc bien plus large. Et d'ailleurs, il a été frappant au cours de ces derniers mois de voir que dans les journaux de la presse internationale, la presse britannique ou la presse allemande, par exemple, eh bien, certains s'inquiétaient justement, s'alarmaient de la situation française en rapprochant les traits de la situation française, de l'autoritarisme qu'on évoquait tout à l'heure, du régime d'Orban en Hongrie. Oui. Voilà, il faut penser à ce qui se passe en Turquie. On n'est pas encore, évidemment, j'espère qu'on ne le sera pas, dans une situation comme celle du régime d'Erdogan en Turquie. On voit aussi ce qui se passe en Inde, on voit
au Brésil.
Ce qui se passe au Brésil, évidemment, avec Bolsonaro. Donc, évidemment que ces tendances autoritaires et ces formes de fascisation, elles s'exercent un peu partout dans le monde. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est arrivé dans une phase du capitalisme. Ça nous semble vraiment très important de le dire et de ne pas considérer cette réalité socio-économique structurelle comme un tabou, hein, comme ça nous a été dit depuis les années 1980. Il fallait même plus parler de capitalisme parce que c'était un peu le plasma, l'air dans lequel on vivait et respirait. Hein. Mais on est arrivé dans une phase du capitalisme qu'on a appelée la phase néolibérale, où justement il y a une expansion généralisée de la logique brutal du capital. C'est un système qui est brutal, c'est un système qui n'a ni morale ni éthique, hein, qui n'a de logique que celle du profit, celle de la pulsion productiviste, hein, celle de l'accumulation du capital à n'importe quelle condition. Et donc on a une marchandisation de plus en plus généralisée, on a une compétition exacerbée qui pèse terriblement sur les conditions d'existence des individus, qui s'accompagne d'un véritable désastre, on le sait, hein, environnemental, hein, ce que d'aucuns appelle désormais un écocide, ah oui, comme une destruction du vivant. Et donc, ça explique aussi l'exacerbation de la violence sociale, ça explique que ces régimes aient de plus en plus besoin de recourir à la brutalité, hein, des sociologues spécialistes du maintien de l'ordre, par exemple, ont parlé d'une brutalisation du maintien de l'ordre. Mais nous pensons aussi qu'il faut parler d'une brutalisation du capital qui, pour reproduire sa domination, a de plus en plus besoin justement de cette violence. Et ce qu'on voit en France depuis quelques années, et ça ne date pas évidemment de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, ce sont des mesures qu'on appelle pour notre part des contre-réformes et non pas des réformes, parce que le mot réforme, il a toujours eu une inspiration émancipatrice et progressiste, hein. Là, ce sont plutôt des contre-réformes qui touchent aussi bien le code du travail, la protection sociale, la sécurité sociale, l'assurance chômage, qui touchent les allocations logement, qui touche en fait le domaine de la santé, hein. On voit encore en France pendant la pandémie en 2020 que plus de 5000 lits d'hôpitaux ont été fermés. On se rappelle les SOS qu'affichaient certains personnels soignants dans les hôpitaux.
Certains aux fenêtres grands professeurs, même je pense au professeur Grimaldi, hein, qui n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme, oui.
Absolument. Donc voilà, en fait, on a tous ces signaux-là qui nous indiquent justement cette brutalité dans l'imposition d'une logique de la rentabilité. Et que donc, plus aucun secteur n'est épargné par ce critère-là de rentabilité, de compétition, cette logique comptable. Et on le voit de manière très cruelle et dramatique dans la santé. hein, avec au total, hein, en une trentaine d'années, quelques 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés, des services d'urgence qui ont fermé, mais on le voit aussi dans le domaine de l'école, de la recherche. On voit désormais des étudiantes et étudiants qui doivent faire la queue pour tout simplement avoir un minimum de ressources alimentaires. Donc voilà, pour se nourrir, c'est faire la queue dans voilà, des distributions alimentaires. Donc c'est une honte en fait pour un pays qui est très riche, pour un pays où la productivité n'a cessé de s'accroître de manière exponentielle hein, dans les dernières décennies. C'est un pays qui est très riche, mais où les inégalités se creusent, où il y a toujours 500 personnes qui meurent chaque année dans la rue, où il y a toujours 1 million de personnes qui sont considérées comme vivant dans des logements indignes. Voilà, autant d'indignités qui expliquent aussi cette brutalité.
Voilà. Oui. Et donc ces éléments, pour vous, contribuent à accentuer cette période de fascisation. Hugo Paillettat, quels autres éléments pourriez-vous, pour votre part, évoquer concernant ce danger dans lequel nous sommes? Il nous reste 2 minutes avant de passer à une autre émission.
Bah, je pense qu'on a, il me semble qu'on a dit l'essentiel. Hein, c'est les deux piliers, si vous voulez, de la dynamique de fascisation, c'est ce qu'on a essayé de développer autour de la montée de l'autoritarisme, les lois sécurité globale et dites contre le séparatisme ont été encore un pas de plus dans l'autonomie donnée aux services de police de plus en plus forte, sans contrôle véritablement politique. Et en réalité, le pouvoir politique se trouve derrière la police. Quand par exemple la police fait pression sur les parlementaires en organisant une manifestation, ce qui est complètement inédit depuis des décennies devant l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le premier pilier. Et puis le deuxième pilier, c'est la montée du racisme sous sa forme politique. Là encore, avec des logiques où l'État, les gouvernements font la promotion, en quelque sorte, de d'une idéologie qui fait des musulmans et de l'islam un ennemi de la nation. Et donc, dans ce contexte, effectivement, hein, peut se développer l'extrême droite sous diverses formes, hein, le Rassemblement National, anciennement Front National, Éric Zemmour, etc. Bon, avec quand même une singularité française, même s'il y a une lame de fond au niveau international, mais peut-être que je finirai là-dessus, mais la presse, j'ai vu un article dans Le Parisien qui s'étonnait presque que dans les élections allemandes qui ont eu lieu récemment, on n'ait quasiment pas évoqué, je crois, une fois dans un débat télévisé, la question de l'islam, alors qu'en France, elle est considérée comme absolument centrale, elle est discutée de manière quasi permanente dans les médias de grande écoute, notamment commerciaux, privés ou les chaînes d'info en continu, et où, par exemple, le scandale de l'évasion fiscale qui représente des sommes absolument considérables qui manquent en quelque sorte au service public et à la protection sociale n'est quasiment pas discuté. Hein, les Pandora Papers, etc., pas plus d'ailleurs que les Panama Papers auparavant, ne sont discutés alors que ça concerne des grands patrons, des chefs d'État, etc. Et c'est précisément d'ailleurs pour ça que ce n'est pas discuté, parce que ça amènerait à se poser des questions sur les politiques de coupe dans les services publics qui nous sont imposées depuis longtemps au nom du déficit qui est en fait en grande partie créé par cette évasion fiscale, par cette fraude fiscale des plus riches et des grandes entreprises. Voilà.
Merci Hugo Paillettat, merci Ludivine Bantilli. Nous sommes au terme de cette première émission et la réflexion va se prolonger à propos de « Face à la menace fasciste » publié aux éditions textuelles.